Bastinet consulta ses notes rapidement. Les îles Saint-Marcouf, à 7 km des côtes normandes, étaient les deux seules îles de la côte française de Calais jusqu'au nord du Cotentin. Deux cailloux posés dans la mer sur lesquels Napoléon avait construit un fort contre les Anglais. Propriété de l'État, y dormir était interdit, mais le mouillage autorisé. Les îles Saint-Marcouf constituaient une destination incontournable pour la plaisance locale. Comme il se doit, le camp du Drap d'Or avait organisé une sortie voile jusqu'aux îles 5 jours avant l'assassinat de Myrtille. Myrtille et son groupe de 5 ados avaient passé la journée sur l'archipel, continua Alina. Je suis venu les rejoindre avec un autre groupe en 3:20, vers midi. J'ai reconnu le type. Même casquette, même lunettes. Il était à bord d'un Zodiac, un petit modèle genre bateau de location, et il naviguait autour des îles.
Depuis combien de temps ?
Demanda Hélène.
Je ne sais pas. Il était déjà là quand on s'est approché de Saint-Marcouf. Il a fait encore quelques tours.
Il fixait Myrtille, c'est très clair.
Puis il a mis les gaz. Cela n'a pas dû durer plus de 5 minutes en tout.
Mais cette fois, coupa Bastinet, cela vous a inquiété.
Hélène soupira ostensiblement.
Pas exactement, commandant, précisa Alina. Je me suis plutôt dit quelque chose comme « Il commence à nous faire chier, celui-là, à nous tourner autour. »
Je comprends. Un réflexe de directrice vigilante.
Quand avez-vous croisé cet homme pour la dernière fois ?
2 jours plus tard. Myrtille était en congé. Elle avait poussé à pied jusqu'à la plage de Grand Camp-Mézy et on avait convenu que je la récupère en allant faire les courses avec le 9 places. À l'heure prévue, je l'ai cherchée sur la plage. Elle dormait, en maillot, couchée sur le dos, un foulard sur les yeux. Je l'ai réveillée. C'est seulement ensuite que j'ai remarqué qu'il était là, sur une serviette à 30 mètres d'elle.
Myrtille m'a avoué sur le chemin du retour qu'elle avait dormi comme une masse sur le sable, plus de 2 heures.
Ses doigts tremblants recherchèrent un mouchoir dans sa poche. Elle ne le trouva pas, renonça et continua.
Cela signifie que ce type avait pu la mater pendant tout ce temps. Qu'il avait pu imaginer ce qu'il voulait, se faire son film, là.
Alina se tut brusquement et fondit en larmes. Frédéric Saint-Michel, les mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil, n'eut pas un geste envers elle. Il semblait se murer dans sa haine contre l'assassin de sa fiancée, comme s'il vivait chaque seconde où la névrose du voyeur s'était peut-être transformée en pulsion meurtrière. Alors qu'Hélène tendait à Alina un Kleenex dans un délicat emballage Vichy bleu, Bastinet insista.
« Vous pourriez nous le décrire ?»
Alina était une fille forte. Elle renifla tout ça pour s'éclaircir la voix et continua.
« Pas vraiment. Il était allongé sur le ventre, toujours sa casquette sur la tête et ses lunettes de soleil. Il était plutôt fin, assez musclé, des muscles longs, comme ceux d'un sportif. Mais je serais incapable de le reconnaître. »
Les policiers lui montrèrent par la suite le portrait robot de l'inconnu d'Yport, remplacèrent sur Photoshop l'écharpe rouge par une casquette Adidas, ajoutèrent des lunettes de soleil. Cela pouvait être lui ou pas. Le commandant Bastinet se fendit d'un sourire compréhensif.
« Ok, mademoiselle Masson, une dernière précision qui ne s'adresse pas qu'à vous d'ailleurs. Vous me confirmez que Myrtille tenait un journal intime ?»«
Pas tout à fait, commandant. Pas vraiment un journal. »
Parents, fiancés et amis se relayèrent pour décrire le carnet bloc-notes Moleskine bleu ciel que Myrtille annotait depuis son adolescence et qu'elle conservait toujours sur elle ou dans son sac à main. Disparus, tous les deux, sans doute entre les mains de son violeur. Myrtille confiait ses pensées les plus secrètes à ce carnet. Quelques phrases brèves, parfois drôles, parfois mélancoliques. Myrtille aimait beaucoup écrire. Bastinet allait remercier les 4 témoins lorsqu'Hélène leva la main. La psychocriminologue avait longtemps hésité à poser sa dernière question devant le fiancé de Myrtille Camus. Elle ressentait une gêne face à Frédéric Saint-Michel. L'écart d'âge avec sa future femme, sans doute, même si à 37 ans, il affichait un charme intact d'éducateur charismatique, dont le regard doux de moine bouddhiste se doublait d'une carrure de judoka. Hélène prit le timbre de voix le plus suave qu'elle put, puis s'adressa directement à Alina.
« Mademoiselle Masson, selon vous, le jour du meurtre, pourquoi Myrtille Camus était-elle habillée de façon aussi élégante?
Alina se figea, surprise.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Hélène pointa un doigt émeraude, bague et ongles coordonnés, pour signifier à Bastinet de ne pas intervenir, et précisa.
Myrtille était animatrice en camp d'adolescents, sous votre direction. Je suppose qu'on porte des habits pratiques pour travailler avec des jeunes garçons. Un short, un t-shirt, des tennis. Pas des dessous mauves et une robe aussi courte.
C'était son jour de congé,
bredouilla Alina, étonnée que la psychocriminologue ne s'en soit pas souvenue. Le commandant Bastinet fusilla des yeux sa collègue. Frédéric Saint-Michel crispa à nouveau ses mains sur sa chaise pour contenir sa rage, contrastant avec le calme de Louise et Charles qui se levèrent dans un silence de fantôme. Le commandant observa Frédéric Saint-Michel avant qu'il ne quitte la pièce. Grand, droit, fier encore, ses longs cheveux étaient noués par un catogan noir. Bastinet fut convaincu que le deuil allait faire exploser en quelques mois cette jeunesse insolente. Que l'on trouve ou non l'assassin de sa future femme n'y changerait rien. Saint-Michel se ratatinerait plus vite qu'un autre, blanchirait, pourrirait aussi sûrement qu'un appétissant fruit trop mûr. D'après le dossier, tout le monde l'appelait Chichin. Les histoires d'amour finissent mal, pensa stupidement Bastinet. En général. Les jours qui suivirent, la question d'Hélène Nilsson fit son chemin dans l'esprit d'Alina Masson, comme un petit éclat dans le miroir de ses souvenirs qui, progressivement, s'étira en une longue fissure. Elle repensa des centaines de fois à cette robe courte, à ses dessous mauves. Alina hésita à revenir en parler à Hélène Nilsson. Plusieurs fois, elle attrapa son téléphone portable, mais jamais elle ne composa le numéro de la carte que lui avait donné la psychocriminologue. Elle n'arrivait pas à faire pleinement confiance à cette psy au visage lisse, même si cette femme avait peut-être vu juste, elle seule. Alina préféra se taire. Elle le regretta davantage chaque jour qui passait, mais exprimer ses doutes, c'était rompre le secret de Myrtille, sa meilleure, sa seule amie. Les jours qui suivirent, Charles et Louise Camus se rapprochèrent plus encore de Carmen Avril. Même si tout les opposait, ils unirent leurs forces. Charles et Louise recherchaient la paix, Carmen recherchait la guerre. Charles et Louise étaient animés d'un sentiment de justice, Carmen par un sentiment de haine. Mais au fond, leur objectif était le même, connaître la vérité, découvrir l'identité du meurtrier de Morgane Avril et Myrtille Camus. Les jours qui suivirent, le commandant Bastinet demanda à ses hommes de se concentrer sur la recherche du suspect numéro 1. L'homme à la casquette Adidas. Les avis de recherche permirent de confirmer la déposition d'Alina Masson. Plusieurs autres témoins avaient croisé ce garçon dans le camping d'Isigny-sur-Mer, sur la plage de Grand Camézy, autour du club de voile. L'avait croisé, mais personne ne put l'identifier. Il ne travaillait pas dans les environs. Les policiers vérifièrent auprès de tous les employeurs potentiels. Un prédateur solitaire se fondant parmi la foule des estivants. Le fait même qu'il ne se présente pas spontanément à la police pour témoigner renforça encore dans l'esprit du commandant Bastinet la conviction qu'il était bien le violeur assassin, le même homme que celui qui portait cette écharpe rouge à Yport. Plus les jours passèrent, plus le commandant désespéra de retrouver sa piste. Le type s'était faufilé à travers les mailles du filet. On ne saurait jamais qui il était, à moins d'un énorme coup de chance auquel Bastinet, par expérience, ne croyait pas. Il avait tort. Le sort bascula en faveur des enquêteurs 2 mois plus tard, très exactement le 3 novembre 2004, le jour où les policiers découvrirent l'identité du garçon à la casquette Adidas. À ce moment-là, il était déjà trop tard. L'affaire Camus-Avril était endeuillée par 2 autres morts.